Malheureusement, de mauvaises habitudes alimentaires et de vie ont gagné même nos campagnes, nos milieux ruraux. Les agricultrices et agriculteurs sont des consommateurs souvent tout à fait comme les autres et ont, au fil des ans, adopté de mauvais comportements de vie et d'alimentation. Le docteur Richard Béliveau tenait cependant à rendre hommage aux agriculteurs pour leur travail à travers les siècles. Ils sont les artisans de l'évolution de l'alimentation sur la planète.
Les famines ont représenté une des causes majeures de mortalité dans l'histoire de l'humanité. Ce que l'agriculture a permis de façon globale, c'est d'assurer un approvisionnement alimentaire stable et ça a permis la création de l'art, la création des villes, la création de ce qu'on appelle la civilisation. L'agriculture est donc indissociable de la création de la civilisation. Vous êtes les créateurs de la civilisation comme producteurs agricoles. C'est intéressant de noter que, globalement, à l'échelle mondiale, l'agriculture s'est faite à peu près dans les mêmes périodes, à peu près entre 5000 et 10 000 ans, que ce soit le riz en Asie, les pommes de terre au Pérou, ou le blé au Proche-Orient, ou les fèves mung aux Indes. C'est à peu près entre 5000 et 10 000 ans qu'on a commencé à cultiver ces plantes-là de façon rationnelle. La même chose au niveau de l'élevage. Le début de la domestication animale, évidemment, les chiens sont plus anciens, mais on a commencé avec les vaches, les chèvres, les moutons au Proche-Orient. Et au fil des milliers d'années qui ont suivi, on a ajouté, dépendant des pays de la planète, des lamas, on a ajouté des sangliers, on a ajouté des dindons, des lapins, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que le début de l'élevage, d'un point de vue historique, c'est à peu près la même fourchette que le début de l'agriculture. C'est quelque chose qui s'est produit entre 5 et 10 000 ans dans notre évolution. Alors, c'est important de noter également que dès le début de l'agriculture, l'être humain, vos ancêtres, producteurs agricoles, ont joué un impact majeur sur la sélection, l'expression du phénotype des espèces. Quand on regarde la tomate telle qu'elle était, le maïs tel que c'était au départ, est-ce que les agriculteurs mexicains de la Mésoamérique, parce que tout le maïs vient de la Mésoamérique au départ, il n'y en avait pas nulle part ailleurs, on oublie ça, mais la tomate, le maïs, les courges, le chocolat n'existait nulle part ailleurs avant le 17e siècle. C'est Cortés en 1500, au milieu du 16e siècle, qui sont allés chercher ces aliments-là et qui les ont amenés en Europe et ça s'est répandu. Il n'y avait pas de tomates dans la cuisine indienne avant les années 1700 et ainsi de suite. Donc, c'est important de noter ça dans le contexte de Bâle, que les producteurs, vous avez joué un rôle majeur dans la sélection de caractéristiques qui fait que les aliments ont des propriétés différentes aujourd'hui. Et en fait, ça fait longtemps que les producteurs agricoles, vous faites de la sélection des meilleurs produits que la terre peut fournir. Ça a commencé avec la culture sélective au début. Ensuite, ça a été les croisements interespèces. Plus tard, on a eu la mutagénèse. Ensuite, on a eu les OGM. Et là, aujourd'hui, vous ne connaissez peut-être pas ça, mais le CRISPR, ça, Cas9, ça c'est probablement le prochain prix Nobel. C'est une méthode de modification génétique qui permet de muter une base à la fois dans le génome. Ça a des impacts extraordinaires en médecine, mais ça va avoir des impacts hallucinants dans le développement, dans la sélection de variétés de végétaux et d'animaux pour corriger des déficits génétiques ou amplifier certaines caractéristiques. CRISPR-Cas9, là, c'est quelque chose qui va être très, très important. Donc, ça fait longtemps que, comme producteur, vous jouez sur les produits de départ et ça nous a permis aujourd'hui d'avoir les extraordinaires produits sur nos tables. Si on a du bœuf, si on a du cochon, si on a du brocoli, du blé puis du lait, c'est parce que ça fait longtemps que les producteurs agricoles partout sur la planète, à la sueur de leur front, sélectionnent les meilleures caractéristiques que la nature offre pour amener sur la table des êtres humains partout sur Terre les produits qui sont le plus santé et qui leur permettent non seulement de survivre aux famines, mais qui leur permettent de garder leur santé.
Donc, coup de chapeau aux agriculteurs, mais aussi mise en garde à leur endroit, car leur travail comporte ses risques pour la santé. L'exposition au soleil, par exemple, est dangereuse, comme l'utilisation de certains produits. Je me suis entretenu avec le docteur Richard Béliveau, qui souhaite tout d'abord que les produits de nos fermes se retrouvent davantage dans nos assiettes, idéalement avant d'être transformés ou surtransformés.
Nos producteurs agricoles nous produisent plein d'aliments qui sont très santé, qu'on ne consomme pas. Donc, revenir à savourer ce que nos producteurs agricoles se désarment à produire, c'est un peu le sens du message de la conférence de ce matin.
Mais aussi, vous leur avez passé quand même quelques messages aux agriculteurs. Et rapidement, je voudrais revenir sur certains points. Là. Attention au soleil, parce que ces gens-là sont souvent dehors.
Oui, c'est ça. On néglige souvent, mais c'est dans les rares cancers qui ont augmenté dans les 40 dernières années en Occident. Les cancers de la peau sont un des cancers qui ont augmenté à cause de notre nonchalance par rapport à l'exposition aux ultraviolets. Il faut se protéger du soleil lorsqu'on est... Un peu de soleil, 5-10 minutes par jour pour la vitamine D, c'est correct. Mais au-delà d'une exposition d'une dizaine de minutes, il faut vraiment se protéger, surtout quand on est agriculteur ou quand on travaille dehors, les gens travaillent dehors, pas juste dans les activités sportives, mais quand on a un travail qui nous amène à être à l'extérieur. La protection avec des vêtements et avec des crèmes solaires, c'est très important. C'est un des cancers qui a augmenté de façon significative.
On ne parlera pas du tabac, on va parler de la nicotine. Vous avez fait un parallèle avec les néonicotinoïdes. Oui. On parle beaucoup dans le monde agricole des néonicotinoïdes. Oui. Il y a de la parenté, là.
Ah oui, ben oui, les néonicotinoïdes sont des dérivés structuraux de la nicotine. La nicotine présentait une toxicité trop élevée pour être utilisée en tant que telle comme molécule. La plante la produit comme mécanisme de défense pour se protéger contre les insectes. L'industrie a donc créé des analogues morphologiques, des analogues moléculaires de la nicotine. Et c'est une classe d'insecticides qui est très utilisée présentement, qui présente une nocivité au niveau des populations d'abeilles. Là. Donc, il y a un problème environnemental important avec des discussions qui sont en train de se faire à toutes les instances gouvernementales et les instances de décision à l'échelle mondiale.
Il y a aussi dans la société le discours qui veut que, bon, il y a des gens qui sont en surpoids, il y a de l'obésité, il y a beaucoup d'obésité, vous en avez parlé beaucoup, mais on entend aussi le discours, bien, il faut s'accepter, il faut vivre avec ça.
Bien, il faut vivre avec ça. Comme je l'ai dit, si vous avez tendance à engraisser, d'abord soyez fiers parce que vous êtes des survivants de l'évolution. C'est grâce à ces gènes-là de prédisposition à l'obésité qu'on a survécu aux périodes de famine. Donc, il ne faut pas se culpabiliser avec ça. Mais en même temps, il faut être conscient du fait que le mythe de l'obèse en santé, là, c'est faux. Il y a encore deux études publiées la semaine dernière qui ont montré que c'était faux. On ne peut pas être en santé et être en surcharge de poids. C'est un problème de santé publique majeur. Nos hôpitaux débordent avec de patients qui ont des maladies chroniques. Et l'obésité, c'est le dénominateur le plus commun à toutes ces maladies-là. On peut avoir un impact majeur sur notre santé et sur la santé de notre société en faisant attention à son poids. On ne se donne pas d'objectif irréalisable. On y va progressivement. On se fait conseiller par des nutritionnistes, par son médecin. On y va progressivement. Rien de draconien, rien de drastique, mais quelquefois des petits changements. Je donnais l'exemple dans la conférence, le fait de s'hydrater davantage. Souvent, on mange par compulsion parce qu'on pense qu'on a faim alors qu'on a soif. Des petits changements comme ça. Mieux dormir. Les études ont montré que le fait d'avoir des bonnes nuits de sommeil, ça nous permet de mieux gérer notre apport calorique. Essayer d'avoir des moments de le plus longtemps possible. 11 à 12 heures entre la dernière bouchée du souper et la première bouchée du déjeuner. Ça aussi, il y a des études qui ont montré ça. C'est pas juste dans la quantité totale de calories qu'on consomme dans une journée, c'est dans la façon dont on gère notre apport calorique qu'on peut faire des petits changements. Il faut que ça se fasse dans le plaisir, il faut que ça se fasse dans les bons choix, pas dans les mesures draconiennes, mais dans le plaisir, parce qu'à long terme, il n'y a rien qu'on ne fera pas à long terme si c'est pas le plaisir. Le plaisir est au cœur des changements dont on parle. Manger italien, manger grec, manger méditerranéen, manger les cuisines du Proche-Orient, manger les cuisines de l'Extrême-Orient, manger des cuisines où de façon traditionnelle où le taux de surcharge pondérale était pratiquement nul à l'échelle mondiale. Le taux de diabète de type 2 était très, très faible dans ces cultures-là. Et la diète méditerranéenne et les diètes japonaises, par exemple, sont des exemples d'impact que peut avoir des régimes très bons, des cuisines absolument délicieuses du point de vue organoleptique, mais qui ont également un impact positif sur la santé. Il faut que le plaisir soit là. C'est très, très, très important. Le plaisir doit être au cœur de nos choix quand on parle d'alimentation. Quand vous cuisinez et que vous voulez remplacer de la malbouffe, ça doit être meilleur que la malbouffe.
C'est ça, le plaisir par la qualité et non par le volume.
Exact, c'est ça, remplacer, c'est ça, avec des aliments à haute densité organoleptique, que j'appelle plutôt que d'avoir des aliments à haute densité calorique, ce que la malbouffe et les produits industriels transformés offrent, avoir des aliments à haute densité organoleptique, des aliments qui ont beaucoup de saveur, qui ont beaucoup de goût. Quand vous mangez des plats savoureux, bien, vous êtes rassasié de plaisir, vos endorphines, vos endocannabinoïdes que votre cerveau produit face à la stimulation de ce plaisir sensoriel-là, mais ça vous donne une plus de satiété, puis ça vous permet d'être plus heureux, de mieux gérer votre quotidien.
Un dernier mot à propos du diabète, vous l'avez mentionné. Ça aussi, on entend, bon, je vis avec, j'ai un petit diabète. Vous avez un petit peu ironisé là-dessus.
Oui, bien, c'est ça. Il n'y a pas de petit diabète. Le diabète, comme je l'ai expliqué, c'est une maladie chronique qui a des impacts majeurs sur les maladies cardiovasculaires, sur le risque d'Alzheimer, sur le risque d'amputation, sur les fonctions, sur le risque de dialyse rénale, sur la vision. C'est une maladie qu'on contrôle très mal d'un point de vue pharmacologique. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est une maladie dont on peut réduire l'incidence à 90% avec des changements simples à l'hygiène de vie. De toutes les maladies chroniques, c'est celle qu'on peut le plus facilement prévenir le diabète de type 2. Donc, malheureusement, c'est une explosion. C'est 7 fois d'augmentation dans les 30 dernières années à l'échelle mondiale des taux de diabète et c'est une conséquence de l'augmentation. Je donnais l'exemple du Mexique de 10 à 60 d'augmentation de surcharge pondérale. On est dans les gros chiffres. Là. On n'est pas dans le 10 à 12. Là. On est dans le 10 à 60 d'augmentation. Et les conséquences de ça, mais c'est des augmentations fulgurantes du diabète de type 2 qui a des implications sur la charge de suivi, pas juste sur la santé de l'individu, mais sur la charge que s'impose au système. C'est des suivis importants en clinique, les patients diabétiques, avec des patients qui sont multimédicamentés, qui ont beaucoup d'interactions pharmacologiques. Donc, c'est une maladie dont on souhaite de réduire l'incidence au niveau populationnel.
Docteur Richard Béliveau, merci beaucoup.
Merci, bienvenue.
Le docteur Richard Béliveau est populaire, disons-le. Et probablement parce qu'il dit simplement la vérité. Un autre personnage invité au Forum de financement agricole Canada, l'ancien arbitre de hockey et animateur Ron Fournier, est en admiration devant le docteur Béliveau.
Bon, salut tout le monde. Eh mon doux, mon Dieu. D'abord, je voudrais vous dire que mon nom est Ron Fournier. Je voudrais vous dire également, les amis, que le docteur Richard Béliveau est un phénomène. Dans mon cœur, c'est une des personnalités les plus appréciées au Québec, partout dans le Canada et dans le monde. Lorsqu'on m'a avisé que le docteur Béliveau était pour vous parler aujourd'hui, je me suis dit, waouh, que vous êtes chanceux. Parce que le docteur Béliveau, selon moi, vous dit les choses simples et si vous ne captez pas le message, c'est parce que, vous êtes sourd, ou bien ça ne vous tente pas en tout parce que vous êtes vraiment têtu, ou bien vous pensez que vous êtes peut-être immortel. Je vais dire ça de même. C'est tellement facile et c'est tellement efficace. Et c'est tellement le fun, mon doux. Pourquoi j'ai pas commencé ça il y a 10 ans? Comment ça, il y a 3 ans, moi? Sérieusement, je me suis jamais senti aussi bien. Je vous encourage à acheter son livre. Lisez ça tranquillement, pas trop vite. Ceux et celles qui, par grand malheur, c'est pas la fin du monde, là, vous avez eu le cancer. Encore plus, s'il vous plaît. Les hommes d'un certain âge, avec le fameux cancer de la prostate, achetez-le. Vous allez voir que c'est facile. Vous allez voir que vous allez passer à travers ça avec, je vais vous dire, avec comme si, je ne sais pas, comme si vous aviez eu un mauvais moment, une épreuve, puis que vous passez à d'autres choses tout simplement. Écoutez-le. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter maintenant. Pourquoi je suis bien, bien heureux? C'est parce que j'ai une auditoire tout à fait exemplaire. Lorsque j'enseignais à l'école, personne n'écoutait comme ça. Personne n'était aussi attentif que vous autres. J'ai jamais vu ça. Vous êtes 650, j'entends rien. C'est parfait. Mais le suivant-là, si ça vous tente de craquer une jambe ou un coude, allez-y, sentez-vous à l'aise. Pourquoi je suis bien, bien content d'être ici aujourd'hui? Je vais vous dire pourquoi. 2 raisons, OK? La première, producteur agricole. Bon, on m'a dit, c'est comme ça que ça s'appelle. Moi, lorsque j'étais comme ça, à 10-11 ans, après ça, infirmier. Moi, j'allais chez mon fermier. Lorsqu'on m'a invité à venir ici, j'ai dit, yes, je suis là, c'est sûr. Parce que d'abord, c'est mon genre de monde, OK? En partant, vous êtes mon genre de monde. Parce que lorsque j'avais 10, 11, 12 ans, j'ai dit à mon père, c'est ça que je vais faire un jour, moi. Je vais avoir la ferme de Maurice Saint-Jacques à Saint-André-d'Argenteuil, près de la chute. Et c'est là que je travaillais à 12, 13, 14 ans. Je faisais les foins, les vaches, je faisais le trait, je faisais tout. Je faisais aussi le tracteur à 13 ans. Personne de mes chums à Montréal faisait du tracteur à 13 ans. Moi, je faisais du tracteur. Je me promenais dans les champs, je sentais, il y avait l'odeur spéciale, je mets ça. Ça me manque énormément.
Ici Lionel Levac. Passer du docteur Richard Béliveau à Ron Fournier, il faut le faire. Mais une autre présentation a alimenté la réflexion des 600 participants à la journée. Celle de l'agroéconomiste Claude Lafleur, venu parler affaires et entrepreneuriat, et dont je vous parlerai moi-même bientôt. Au revoir.